Eh bien, je n'aurais évidemment pas la prétention d'essayer de parler, même brièvement, de la pensée de Roger Munier. C'est une entreprise qui serait de trop grand style et qui dépasserait mes compétences et en tout cas le cadre d'une intervention nécessairement limitée. J'ai essayé simplement de répondre ou d'ébaucher une réponse à la question qu'aura été Roger Munier, quel apport a-t-il représenté pour, disons, et tout simplement, quelqu'un comme moi. Il ne s'agira pas de traiter de même cette question restreinte, mais simplement de dégager une direction. Et pour cela, une première remarque, eh bien, on ne lit pas Roger Munier comme on pourrait lire un philosophe, comme on pourrait avancer dans un traité, dans un essai de philosophie, c'est-à-dire dans un texte dont les concepts, essentiellement des concepts, seraient aussi dégagés que possible de toute ambiguïté, allant à des formulations partageables, à des significations analysables. Pourquoi ne lit-on pas Roger Munier de cette façon? Eh bien, parce que cette parole philosophique a son objet, a son plan propre, a son plan même. Elle le constitue autant qu'elle ne l'analyse, ou tout au moins qu'elle croit ne l'analyser. On est en quelque sorte au sein du grand tissu conceptuel qui se substitue à la réalité fondamentale du monde. Alors que chez Munier, eh bien, il ne s'agit jamais, pour lui au moins, me semble-t-il, que d'aborder un objet dont il sait d'emblée qu'il transcende les moyens d'expression qui sont les siens au sein de sa parole simplement humaine. Écoutons-le, par exemple, tenter de dire l'expérience du « là », de ce qui est là en face de nous, un « là » qui est antérieur à l'être et qui doit se situer aussi par rapport à une autre expérience transcendantale, celle de l'attente que nous avons en nous-mêmes. Là, je fais allusion, certains d'entre vous le reconnaîtront, au début du livre, du beau livre intitulé « Mélancolie ». Que fait Roger Munier dans sa parole, dans sa façon d'employer les mots pour se porter vers ce qu'il sait qui est au-delà des mots? Eh bien, ce n'est pas une description phénoménologique comme on pourrait le penser, et comme il pourrait sembler par le dehors de son texte, une phénoménologie qui voudrait s'établir tout de même dans un parler cohérent, non contradictoire. Ce n'est pas non plus un récit, le récit du rapport personnel qu'avec sa propre vie, ses circonstances particulières, et il pourrait tenter de retracer en direction d'une expérience qui lui échappe, mais dont il aurait saisi des parcelles à des moments de son existence. Cela, c'est une fiction qui vaudrait tout de même par sa réalité, par sa vérité indirecte. Non, ce sont bien les mots les plus abstraits, les mots dégagés le plus possible de la subjectivité, mais d'emblée donc reconnu comme insuffisant, comme limité, et employé sous ce signe même de leur insuffisance, avec une lucidité constante, mais dirais-je aussi avec sympathie, considérant que ces mots qu'il cherche à travers lui et pour lui sont en quelque sorte des proches avec lesquels il doit partager l'insuffisance foncière qui est dans la parole. Roger Munier est avec les mots qu'il emploie, il en partage la recherche, il sait que cette phrase qu'il vient d'écrire est celle-là et qu'elle ne pourrait pas être une autre, sauf à la modifier, mais pour rester dans cette immédiateté de son rapport avec elle. Il ne se sépare pas de son expression. Il fait corps avec elle. Et nous, ses lecteurs, eh bien, soit, bien entendu, nous pouvons ignorer tout cela, nous refuser à cette parole, fermer le livre et penser à d'autres auteurs. Mais si nous nous laissons requérir par le livre, par l'auteur, eh bien, nous aussi, nous nous associons à son travail, nous aussi, nous nous impliquons personnellement, encore une fois, en au-delà de nos circonstances personnelles, dans ce qu'il y a en nous de plus simplement retiré sur l'attention au problème. Nous nous impliquons tout de même personnellement, nous faisons nôtres ces mots, nous faisons nôtres ces phrases, nous devenons en quelque sorte le co-auteur de ce livre, comme nous pourrions faire avec un poème. Et maintenant, donc, une seconde remarque. Cette pensée qui se voue à un objet transcendant est par nature même vouée aussi à l'échec, ce que l'on pourrait appeler un échec. Elle ressent son insuffisance à conquérir la présence dans les mots de ce à quoi elle s'attache. Elle sait cela, elle veut donc recommencer son travail d'approche. C'est un recommencement qui se poursuit à travers toute l'œuvre de Roger Munier, si bien qu'en un sens, c'est ce recommencement comme tel qui y devient le lieu de la vérité de cette œuvre, ou plutôt de cette pensée, une pensée qui est à la fois l'intellect et le corps, la vérité de cette œuvre, ce constat de l'insuffisance, en quelque sorte native, du conceptuel, à dire l'identité de la réalité à elle-même, ce constat, cet appel à une réflexion sur le conceptuel comme tel, et en même temps donc ce sentiment que ce n'est que dans le recommencement que l'on peut trouver la vérité de cet effort qui échoue, c'est cela, me semble-t-il, l'apport principal, en tout cas le plan principal sur lequel se situe l'apport philosophique et, peut-on dire, mystique, en tout cas transverbal, de Roger Munier. Et ceci étant, une question, bien entendu, se pose, une question se pose à moi, quel est le rapport de cet exercice de la parole, de ce risque de la pensée dans la parole, quel est son rapport avec ce que l'on appelle la poésie? La poésie aussi est une mise en question du conceptuel, avec pour ambition de dégager du voile que la pensée conceptuelle, généralisante et abstraite, fait peser sur l'immédiateté de notre être au monde, d'en dégager, disons, ce rapport à soi de l'être fini comme tel. La poésie est une tentative, donc, pour se délivrer du regard conceptuel, accédant peut-être ainsi à un savoir de l'immédiate qui se jouerait, qui se chercherait, qui se trouverait par le dedans de la vie, avec des situations de présence où l'objet se dévoile en nous, ce « là », par exemple, ou cet « ailleurs » qui vient tout de suite, aussitôt, après, dans le souci poétique. Voilà, une expérience donc semblable peut-être à celle que Roger Munier a sans cesse poursuivie. Alors, est-ce le même combat ? Est-ce que ce que la poésie cherche à obtenir en décapant la parole de son dehors conceptuel, est-ce que ce qu'elle recherche ainsi et ce que Roger Munier tente d'obtenir sur la page de son livre? Oui, certes, en un sens, on peut dire que c'est le même combat. Et d'ailleurs, Roger Munier a toujours été attentif, extrêmement attentif, à la poésie comme elle existe dans les œuvres qui se présentent d'emblée comme telles. Vous savez qu'il a écrit un grand livre sur Rimbaud et aussi à quel point il a été sensible à la poésie du haïku dont il a fourni une anthologie. Il n'y avait pas, en effet, sans doute, peut-on dire, dans l'entreprise poétique universelle, de visée qui se rapprocha davantage de cette immédiateté qui était son objet constant. Oui, même combat, mais tout de même pas la même voix. Et c'est ce point que je voudrais essentiellement en dégager. La poésie, pour accéder à une expérience de la présence, à une participation éventuelle de l'identité, de la réalité à soi-même, la poésie se place à l'extérieur des concepts. Elle en refuse le réseau de signification au sein du discours. Elle demande aux mots de récuser la signification qu'on leur fait porter conceptuellement pour redevenir simplement désignatif de ces choses simples que nous avons devant nous quand, en deçà du conceptuel, nous sommes encore des enfants. La poésie se place à l'extérieur du concept tout simplement parce qu'elle refuse leur projet de prise sur la chose même. Munier ne fait pas cela. Munier se porte, lui, au contraire, à l'intérieur des concepts pour en modifier du dedans la prise sur l'objet. Il ne travaille pas par une écriture qui déconstruirait la signification dans la phrase à faire apparaître dans un vide un objet qui serait là pour nous dans un silence au-delà. Non, il veut rester dans une parole signifiante demandant de par l'intérieur même du concept que celui-ci éprouve sa limite fondamentale. Il pense le « là », mais le « là », je reprends ces deux mots qui sont au seuil, au fond, de beaucoup de ses livres, mais il ne le rencontre pas dans son vécu immédiat, comme ferait le poète qui aurait en quelque sorte désagrégé les discours. Il reste au sein du discours pour faire travailler de l'intérieur la conceptualisation sur la présence. Une autre voie, par conséquent, vers cette expérience fondamentale de la présence, une autre voie pour faire advenir au sein de la parole cette expérience en un sens fondamental pour nous, puisque elle est la clé de notre finitude, qui est notre seul moyen de nous réinscrire dans la réalité. Et en présence donc de cette dualité d'approche, je me pose une question, on doit se poser une question, est-ce que la voie que Munier a entrepris de suivre ne se voue-t-elle donc pas à une impasse, étant donné que de l'intérieur même de la conceptualisation où il se placerait, il n'est pas possible de forcer ce qu'il y a de généralité inhérente au conceptuel, alors que précisément il faut accéder à la particularité infinie. Eh bien non, je dirais que même si du point de vue de la liberté et de l'irresponsabilité d'écriture des poèmes, on peut éprouver qu'il y a chez Munier une limite que la poésie peut-être peut rêver de transgresser, en le lisant, on n'éprouve pas que l'on se soit éloigné de la poésie. Je n'éprouve pas, moi, personnellement, que le texte discursif, tout de même, aux limites du discursif, mais discursif, malgré tout, de Munier, soit autre chose que l'expérience poétique. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce rapport au conceptuel vient à la poésie comme une aide qu'elle peut recevoir. La poésie, le travail poétique dénie, je le disais à l'instant, conceptuel, mais elle aurait tort de ne pas l'aimer, car le conceptuel est ce qui construit notre monde, ce qui construit notre être au monde, ce qui fait que l'ambition poétique peut s'établir en moi par, en quelque sorte, mise à distance, relief créé autour du conceptuel comme tel. Le concept est là, il faut essayer de lui rappeler ses limites qu'il oublie trop facilement. Il faut l'empêcher d'être idéologie, mais surtout, il ne faut pas refuser le plan sur lequel il travaille. Critiquer sa méthode, lui rappeler ses limites, mais qu'il serait facile de le mépriser. C'est le piège du lyrisme qu'il faut préserver lui-même de soi. Eh bien, Meunier, avec sa pensée, avec son approche intérieure de la conceptualisation, avec sa façon d'essayer d'ouvrir au sein même du conceptuel une fenêtre sur ce qui est au-delà, Meunier aide la poésie à combattre sa propre irresponsabilité, sa propre superficialité. Elle est suggérée de se souvenir, en quelque sorte, du matériau même avec lequel elle fait. On peut apprendre donc beaucoup, me semble-t-il, si on se voue à la naïveté de l'écriture poétique, à la lecture de la pensée patiente, rigoureuse, obstinée, récurrente toujours à son problème de Meunier. J'ai ressenti en tout cas cela à travers ma vie, car j'ai connu Roger Meunier il y a bien longtemps, de façon très forte, avec beaucoup de gratitude, et j'ai vu en lui, en quelque sorte, un allié fondamental de l'expérience poétique, avec d'ailleurs, soit dit en passant, de sa part à lui, une réflexion à d'autres moments que son expérience discursive fondamentale sur les rapports proprement philosophiques et ordinairement formulables philosophiquement de la poésie et de la pensée, de la poésie et de la vérité. Autrement dit, cette pensée, cette œuvre de Roger Meunier, c'est le témoignage, au fond, le seul témoignage que je puisse apporter, m'a été personnellement d'un grand apport, à la fois donc comme présence intellectuelle très forte et aussi comme présence amicale et qui très naturellement amplifiait l'apport de la pensée philosophique et l'approfondissait. À travers beaucoup d'années, nous avons eu, Roger Meunier et moi, beaucoup d'occasions de collaborer à des projets d'édition, par exemple, et ce fut toute une époque de laquelle ensuite j'ai eu à éprouver qu'il était bien regrettable qu'elle cessât. À la fin de la vie de Meunier, en tout cas pendant quelques années de cette vie qui s'achevait, les espacements ont s'agrandir dans les situations d'échange. Roger Meunier habitait loin de Paris. Des travaux divergents occupaient la pensée de l'un et de l'autre. Mais tout de même, je me reproche, bien sûr, je me reproche beaucoup. J'aurais dû, disons cela métaphoriquement, faire visite à Roger Meunier au Lyaumont. Hélas, on fait comme si le temps n'existait pas, comme si on pouvait se permettre de l'oublier. Et c'est pour moi un grand regret, d'ailleurs pas le seul de cette sorte que j'ai eu à éprouver dans ma vie. Et sous le signe de ce regret, un dernier mot qui est de reconnaissance à Patrick Zeyen pour le beau film que nous avons vu cet après-midi. C'est par la voie de ce film, en fait, que j'ai découvert le lieu maison et paysage et environnement au sein duquel Roger Meunier élaborait sa pensée, approfondissait son émotion. J'ai ressenti cela comme un grand apport, mais surtout cet apport, c'est qu'il m'a permis de retrouver Roger Meunier dans sa présence à soi-même, dans l'immédiateté de sa réflexion, du côté où il écrivait la lettre que l'on pouvait recevoir à des occasions. C'est un contact que Patrick Zeyen nous a permis merveilleusement de renouer, et pour cela, je l'en remercie beaucoup. Merci à tous.